Bienvenue sur le podcast « Fais voyager ton entreprise ». Cette semaine, on a le grand bonheur de recevoir une femme extraordinaire qui fait du GPS entrepreneurial, qui a eu plusieurs chapeaux à travers sa vie. Entre autres, elle est encore réaliste, productrice, en tous les cas. Elle va nous en parler plus à la fin de notre podcast, évidemment. Donc, bonjour ma jolie, comment vas-tu?
Ça va super bien, très bien. Merci de l'invitation, je trouve ça cool. Je trouve d'ailleurs ton projet super intéressant et ta mission très intéressante également.
Ben merci, c'est super gentil. Écoute, oui, les gens aiment ça parler de voyage, aiment ça entendre parler de voyage. Donc, ma jolie, si je te demandais, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Je sais que c'est difficile, là, c'est une question quand même assez difficile, mais tu me répondrais quoi exactement?
Ben, en fait, je vais sauter du début de quand j'ai commencé à voyager. Parce que je pense que c'est intéressant pour les entrepreneurs avoir un mindset quand t'es déjà savoir ce que tu veux faire. Puis quand j'étais petite, ma mère puis mon père voyageaient pas du tout. C'est des gens qui disaient tout le temps que ça coûte cher voyager. Puis je me suis fait une promesse, c'est d'être payée pour voyager. Mm. Ça, c'était ma promesse que je me suis faite. J'étais très jeune, là. Je me dis, moi, un jour, je vais voyager, mais je vais être payée pour voyager. Mm. Et le premier voyage que j'ai fait, c'était une tournée en Tunisie. En fait, j'avais 17 ans. Puis, il y avait un chanteur ringard qui est venu auditionner des Québécoises à Montréal pour un spectacle au Portage, donc à Place Bonaventure. Et j'ai été choisie comme chanteuse et danseuse parce que je faisais de la danse professionnelle quand j'étais plus jeune avec une autre personne. Puis, j'ai appris pendant qu'on faisait une émission de Allô Boubou. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment quétaine, mais c'est pas grave, c'était super populaire à l'époque. Ben, qu'il amenait ces deux Québécoises en tournée avec lui. Mais moi, j'ai 17 ans, tu sais, j'avais même pas de passeport à ce moment-là. Puis là, je vois juste dans mes yeux, en plus, je l'ai gardé cette émission-là, je l'ai, puis je vois vraiment juste mes yeux qui font ça comme ça, qui regardent ma collègue à côté, je fais « on s'en va tourner ». Ma première tournée, ben, j'avais 17 ans, puis mon papa dans l'aéroport qui m'envoie la main avec les grosses larmes qui coulent, c'est la première fois que j'ai pleuré. Et je suis partie pendant 6 mois de temps, c'était mon premier voyage, on a fait la France, le Maroc, puis après ça, on a demeuré en Tunisie. Et l'objectif était qu'on faisait un spectacle à l'intérieur d'un hôtel pendant 2 fois semaine, mais le reste du temps, on était en tournée. Donc, j'ai vu la Tunisie, à Mamlif, j'ai fait tout le tour de la Tunisie. J'ai vécu pour la première fois une culture complètement différente. Et c'est là que j'ai compris que j'étais féministe.
Oh! Oui, surtout quand, écoute, à l'époque, là, ça fait quand même quelques années, là, c'est encore pire qu'aujourd'hui, là, il y avait moins d'ouverture, on va dire ça.
Non, alors, tu sais, moi, je suis bien libre d'envie, là, puis là, je me dis, oh my God, ça va pas. Mais c'était mon plongeon, en fait, dans la vie de voyage, et ça a été ça tout le reste de ma vie. Je suis payée pour voyager. Que ce soit, que ça a été faire du tournage au Mexique, j'étais allée tourner sur des villas avec toute une organisation de constructeurs qui voulaient faire la promotion. J'étais allée à Saint-Raphaël pour d'autres constructeurs aussi en immobilier qui voulaient faire. J'ai gagné des prix à Monaco. J'ai toujours voyagé, en fait. Les 2 voyages que j'ai faits, où est-ce que ça tout inclut, je me suis encore organisée pour trouver quelque chose à faire, sortir de l'hôtel, puis m'en aller à quelque part pour aller rencontrer le peuple. Moi, j'aime ça, l'humain, j'aime rencontrer. Donc, c'est rare que je fais des voyages juste pour voyager. Mais à travers tous les voyages que je pense, ben j'en ai fait plusieurs. Écoute, comme je te dis, j'ai fait de la tournée avec l'armée canadienne aussi. J'ai fait l'Israël, l'Égypte, on a fait l'Allemagne. Je me suis promenée beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait le Sénégal, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un reportage là-bas pour les leaderships féminins. Et qu'il y a des femmes extraordinaires au Sénégal, de la puissance, là, wow. Puis le dernier voyage que j'ai fait qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Italie. J'ai gagné un prix à Monaco pour un de mes documentaires, puis je suis partie en voiture, j'ai loué une voiture, une petite Fiat blanche, là, vraiment, là, tu sais, le vrai profil là, de la fille qui se promène, là. 3000 km j'ai fait, je suis partie, puis là, j'ai voyagé, puis je loue beaucoup d'Airbnb dans ces moments-là parce que je connais pas où je m'en vais, puis je rencontre des gens. Alors, je m'en vais avec des places où est-ce que les hôtes sont là, en tout cas, comme ça, je peux les rencontrer. On peut partager, puis il m'amène partout ce que j'aurais pas été. Mmh. Alors, je voyage, puis je me fais des amis. Oui, beaucoup d'amis.
toujours pratique pour retourner dans un pays, les amis.
Même les invités, il y en a qui sont venus après coup, parce que j'avais j'étais à Montréal, ben je suis encore, mais là, je me promène dans les chalets, puis là-bas. Et j'avais un appartement avec qui pouvait recevoir une famille. Donc, j'ai reçu une famille d'Italie que j'ai rencontrée, qui lui était médecin. Ils avaient 5 enfants. Puis ils sont venus nous visiter à Montréal. Donc, c'est ça. Tu sais, je trouve que le voyage, moi, je dis souvent que la culture, n'importe quel petit humain de la vie, quand tu as 16, 17, 18 ans, 20 ans, si tu n'as jamais voyagé, c'est le temps. Parce que quand tu voyages, tu trouves tout est ouvert. Tu apprends des cultures, tu apprends autre chose. Moi, je reviens à Montréal tout le temps parce que, tu sais, la toune de Robin Charlebois, là, je reviendrai à Montréal. Ben oui, je reviens à Montréal. J'aime ça, Montréal. Tu sais, je suis partie longtemps. Des fois, je pars pendant 10 semaines, 15, 20, 2 semaines, whatever. Faut que je revienne à Montréal. J'ai besoin de me mettre les pieds sur le sol, marcher au centre-ville, voir le monde, entendre parler québécois. J'aime ça. Mais c'est ça. Mais je pense que le voyage apporte une grande ouverture d'esprit, puis au niveau du cœur, évidemment, parce que tu rencontres d'autres choses, tu vois d'autres mondes, tu apprends des choses, tu sais. Donc, c'est ça, mon voyage, mais je voyage constamment dans ma tête. Même mes personnages, j'écris hein, aussi que mes personnages voyagent. Bon, d'ailleurs, Pénélope, un de mes personnages, tant en Italie qu'elle est allée, et quand je suis partie là-bas, j'ai fait le périple de mon personnage. Alors, j'ai tout fait, tout ce que mon personnage allait dans le livre, j'avais jamais été, en fait, pour aller voir qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis, étrangement, je pense que je te dirais qu'il y avait 98% de ce que j'avais écrit qui était existant.
Wow! C'est
fou, hein? C'est capoté, hein? C'est ça, que c'est beau, les voyages.
Tu sais, écoute, t'es écoute de parler, effectivement. Dis-moi, ma jolie, quel serait le voyage que tu n'as pas fait encore puis que tu rêverais de faire?
Ben, j'ai la Grèce que, tu sais, je sais que vous êtes allé en septembre. Il y a la Grèce que j'aimerais. Il y a quelque chose qui m'attend là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si vous avez des fois des visions. Peut-être. Moi, je vois beaucoup de choses dans l'inconscient. Je suis pas mal branchée. Puis, il y a quelque chose que je vois régulièrement qui est une villa, une grosse villa sur 3 étages, immense, avec une route en arrière, c'est une montagne qui roule comme ça. Puis en bas, t'as la mer avec un bateau. Puis là, t'as deux autos, hein. Une BMW puis une Mercedes. Ça, c'est bien clair, mon affaire. Puis moi, je suis en haut, puis un gros spa. Puis je suis en haut, puis je regarde la mer. Et là, je me dis, c'est où cette place-là? Alors, j'ai fait le tour un peu sur voir les parcours de les villes et tout ça. Puis je pense que c'est en Grèce que ça se passe. Et moi, je pense que mon prochain voyage, ça va être en Grèce.
Ça, c'est possible.
Il y aurait le Portugal. Ben, il y a le Vietnam aussi. C'était un endroit que je trouve que c'est quelque part que j'aimerais vraiment aller. Je trouve que au niveau du peuple, au niveau de toute la culture, c'est quelque chose que j'aimerais. Mais c'est ça, Portugal aussi. Ben l'Espagne, c'est plate à dire, je l'ai jamais faite encore. Pourtant, j'étais à côté quand j'habitais en France. J'ai jamais eu le temps d'y aller comme je voulais. Donc, ça en fait 4.
Bon. Écoute, moi, je suis allée au Vietnam cette année, en 2023. Il y a deux choses, quand je pense aux Vietnamiens, là, il y a vraiment deux choses qui me reviennent à l'esprit. C'est leur résilience, parce que, écoute, ils t'expliquent comment ils se tiennent, puis pas pour faire pitié, là. Ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait suite à la guerre, puis suite à... Bon, ben ici, il y a un trou hein, qui a été fait par les bombes, donc on peut plus faire pousser de riz. Donc maintenant, on cultive des champignons. Puis là, ils disent ça comme tout heureux, tout content. C'est-à-dire, ben on a trouvé une autre solution. C'est comme... Fait que résilience et bienveillance. Écoute, ils sont tellement fins. Ils sont tellement... C'est un peu... Oh, moi, ça, écoute, tu vas adorer. C'est un endroit
pour vraiment... ça, je vais aller résilience et bienveillance.
Wow, moi,
résilience, j'ai eu 3 cancers. Quand 3 cancers, tu te dis résilience, ça n'a pas le choix. La bienveillance, c'est pas mal ma motivation chez l'humain, en fait. Les gens que je coach ou les gens avec qui je travaille ou même mes amis, peu importe. Être bienveillant envers quelqu'un, être là pour lui et non pour attendre quelque chose en retour. T'sais.
Exact.
Puis la bienveillance, mes clients, ils sont entourés de bienveillance. Je prends soin d'eux autres. Je prends soin d'eux autres beaucoup, beaucoup. Puis c'est pour ça que j'ai probablement des clients depuis beaucoup d'années en production vidéo, entre autres, beaucoup. Des clients qui ont toujours des besoins. Mais même les coachés avec qui je travaille, tu sais, j'en ai de la France, j'en ai d'un peu partout. Tu sais, mon marché est un... Grâce à la pandémie, en fait, je trouve ça cool parce que ça m'a fait développer autre chose. Puis, j'en ai qui vont m'appeler, vont m'envoyer des textos ou vont m'envoyer Messenger parce qu'en ce moment, ça n'a même pas rapport avec leur programme d'excellence. Là, ça a rapport que là, il y a quelqu'un qui est malade puis ils ont besoin juste d'évacuer puis de s'être réaligné, tu sais. Je vais toujours prendre le temps, tu sais, parce que la maladie, ça peut frapper n'importe qui. Je sais, parce que j'ai passé par là. Puis moi, j'étais chanceuse, j'avais un coffre d'outils bien plein, mais c'est pas tout le monde.
que ça donne qu'ils ont un coffre d'outils bien plein. Alors, ce qui fait qu'un entrepreneur qui vit des difficultés financières ou difficultés de santé ou qui est entouré de ça, souvent, n'a pas toujours le coffre plein. Hein? Alors, c'est ça. Que moi, je suis la quincaillerie du bonheur.
C'est donc bien cool. Et dis-moi, ma jolie, dans tous les voyages que tu as fait, qu'est-ce qui t'a surpris le plus?
Ben, je pense que ça revient à dire un petit peu, là, sans rentrer là-dedans, mais, tu sais, quand je suis allée en Israël, ce qui me surprenait le plus, en fait, c'est vraiment, je pense, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, là-bas. C'est quelque chose qui m'a, ça m'a, je dirais même traumatisée, parce que pour moi, tu sais, d'être pas être capable de rentrer dans un endroit parce que je suis une femme, c'était comme, my God, attends une minute, là. Ça m'a bousculée. Puis, j'étais pas vieille en ce temps-là, là. Je pense que j'avais peut-être 18 ans, 19 ans quand j'étais allée en Israël. Et, ça m'a beaucoup surpris que ça existe. Mais ça existe, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu, en fait, beaucoup de difficultés à me dire, tu sais. On est tous des humains, là, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas rapport. Puis là, c'est une culture. Donc, moi, j'ai appris, quand je vais ailleurs, de respecter la culture de chez les autres et non d'imposer la mienne. Parce que, évidemment, que quand je vivais là-bas, puis quand je suis allée même au Sénégal, hein, Sénégal, c'est un autre type de culture aussi, ben c'est de m'ajuster. Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est justement la différence entre une femme et un homme dans le côté des humains qui me rejoint pas pantoute. Là.
Dis-moi, si je te demandais, qu'est-ce que tu as goûté qui était le plus surprenant?
Hey boy! Attends, je reviens au Sénégal parce qu'on a mangé justement des poissons. Tu sais, les autres, ils mangent à peu près toutes, là. Non, je te dis, gaspille rien, là. Et à un moment donné, on était en train de manger, puis c'est cool parce que ça, c'était vraiment cool. J'ai vraiment eu des moments extraordinaires. Quand je suis partie au Sénégal, je m'en allais faire justement un documentaire sur le leadership féminin. Finalement, en cours de route, j'ai rencontré des artistes, hein. J'ai rencontré des musiciens. Je les ai suivis. Après ça, j'ai rencontré un sculpteur, qui s'appelait Omar. Magnifique ce qu'il faisait. Puis là, ben évidemment, je suis faite OK, j'étais curieuse. Puis là, bon, on s'est liés d'amitié. Puis là, j'étais là comme 10 semaines qu'on était en de se voir. Puis là, il m'a amené chez sa famille. Puis c'est toutes des familles de sculpteurs, en fait, de génération en génération, des générations. Et là, quand je suis arrivée là, ce qui m'a surpris, entre autres, ça, c'en en est une. Ben entre autres, puis ce que j'ai goûté. Mais c'est la hiérarchie de le patrimoine, tu sais, le patriarche, là, tu sais, le grand-père qui est là, le père qui met sur un piédestal, là. Il est pas dans un CHSLD, là, non, piédestal, tout le monde s'en occupe, il est à côté, et là, tu rentres dans les maisons, c'est toutes des maisons de terre, c'est fait sur la terre, il n'y a pas de plancher, là-bas. Toute la maison, il y sont près 25 qui vivent dans cet environnement-là, et là, ils te reçoivent comme vraiment comme une reine, et je suis blanche, hein, oui, et ils appellent les toubabs, en fait, les personnes blanches quand on s'en va au Sénégal. Moi, j'étais à Casamance, en fait. Et il y avait un petit bébé qui était là, qui avait jamais vu une madame blanche. À chaque fois, je m'approchais, il criait s'il allait se cacher. Puis là, moi, j'ai tout fait de rire. Hey, le petit bébé était traumatisé de voir une petite patente blanche comme moi, là. Il était comme, my God, qu'est-ce que c'est ça? Puis la mère non plus n'avait jamais vu une blanche. Puis parce qu'en fait, c'est une communauté, hein. C'est des gens qui vivent pas partout. C'est pas vrai que, parce que t'es en 2000, je me rappelle plus l'année que je suis allée, en 2015. Genre 2015, dans ce temps-là, qu'ils ont toutes vu, tu sais. Alors, j'ai tellement ri, mais eux étaient tellement mal à l'aise. Puis je leur disais, non, c'est correct. Et j'ai même filmé ça. J'ai capté ce moment-là du petit bébé qui me regarde puis qui crie et qui a peur de moi. Et je vais revenir à ce que tu m'as posé comme question, don't worry.
Il n'y a pas de souci.
Dans cette période-là, Omar, il m'a amené dans les écoles où ce que lui avait étudié. J'ai été fascinée de voir la discipline chez les enfants. Moi, je suis rentrée dans une des écoles, c'était une maternelle, au niveau maternel. Les enfants étaient tous assis par terre puis attendaient. Ben, ils m'attendaient pas moi, là. J'étais pas supposée être là, là. Je rentre, ils attendaient le professeur. Ils sont tous assis. Personne ne dit un mot. Ils sont tous habillés avec leurs petites fesses et tout. Ils sont tous assis là. Puis moi, je rentre, puis je fais comme, OK. Puis Omar, il dit, attends, il dit, le professeur va s'en venir, tu sais. Alors là, la professeure, elle arrive. Elle dit aux enfants, vous pouvez vous lever, les enfants se lèvent. Là, je me dis, mais non, ça fait 15 minutes qu'ils sont assis là, qu'ils bougent. pas un mot, là, assis, là, tu sais. Là, je me dis, attends une minute, là, quelque chose pas compris. Alors là, je fais comme, OK, là, tout ça. Puis là, ben, Omar m'amène dans différents endroits, dans les classes différentes. Et là, je me fais demander par des jeunes de chanter. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que moi chanter, tu sais, je dis. Alors, j'ai chanté café. Écoute, puis là, je dansais. Puis là, écoute, les enfants, là, ils pouffaient de rire. Ils sont venus danser, ils sont venus chanter avec moi. Puis là, je me dis, mais où c'est que je suis rendue? C'est comme dans un environnement que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, là? Alors, c'était magnifique. Puis j'ai vu une discipline absolument extraordinaire. Et je suis très blanche à côté de ces beaux gens-là. C'est très foncé. Non, je te dis, là, je me trouvais pâle. Puis j'étais bronzée à peu près dans ce temps-là, mais j'avais quand même pris un peu de soleil quand même en 8 semaines au Sénégal. Ouais. Et là, pour finir avec ton histoire de ce qu'on a mangé, je me suis retrouvée chez la famille de mort, puis là, avec le petit bébé qui crie. Et là, on est tous assis par terre avec la nappe et tout, puis ils mangent avec leurs mains. Littéralement, avec tout, ils lavent leurs mains toutes les 2 secondes, c'est très, très pas, puis tout ça. Et là, ils m'ont servi un plat. Puis là, ben, moi, j'ai regardé le plat. J'ai fait, ah, ben, bizarre, ça a des yeux, cette chose. C'est quand même bon. Puis là, t'oses pas trop pas manger, parce que là, tu te dis, tu vas leur, tu sais, tu veux pas manquer de respect, tu sais. Mais je me rappelle avoir mon doigt creusé un peu comme ça pour pousser l'œil. Parce que moi, c'est l'œil. Il me regarde, il m'examine. C'est le petit œil, tu sais. Là, je me sentais mal à l'aise, je me sentais revue, regardez. Alors, j'ai tassé l'œil une fois, après ça, tassé l'œil 2 fois. Omar me regardait, puis il savait très bien que je tassais les yeux, tu sais. Et là, il me dit, si tu veux pas la manger, moi, je vais la prendre. Oh, oui! Vas-y, mon ami! Alors, il repassait avec la tête, puis les 2 yeux qui faisaient ça de même, gling, gling, là, c'est plus on a ça super cool. Ouais, mais j'ai goûté des bonnes choses. J'ai mangé c'est ça, c'est pas le poisson parce qu'on en a des poissons ici. Cependant, j'ai comme compris que à Sarche, quand j'ai des chalets puis nous autres on a du brochet. Ben quand je fais chauffer maintenant, je me tape un brochet, je garde toute la carcasse au complet, les yeux, tout ce que tu veux là, puis mets ça puis je fais des bouillons. Mm-hmm. Ouais. Alors je vois mieux maintenant dans ma vie, tout est plus clair depuis ce temps. Et voilà. C'est cela. C'est l'autre question!
Attends, je vais prendre l'arrêt. Mais est-ce que tu sais, en date d'aujourd'hui, quelle sorte de poisson c'était ou pas du tout?
Non, j'ai pas osé demander.
T'as pas osé?
J'ai pas osé demander. J'ai pas... Puis il y avait d'autres affaires aussi un peu bizarres que là, je me suis dit, je vais m'abstenir. Tu sais, t'oses pas trop parce que tu veux pas manquer de respect non plus.
Non, c'est ça. Parce que pour eux, ils ont probablement sorti un repas qu'ils font une fois de temps en temps parce que ça leur coûte extrêmement cher. Puis...
Exactement, c'est ça. Oh, puis, tu manges avec une cuillère là-bas, t'as pas de fourchette, t'as pas de couteau. Ça... Puis j'ai aimé manger. J'avais goûté à ça quand même en Tunisie, avec les couscous et tout. Il y a beaucoup de place qu'on mange avec les mains. Là. D'ailleurs, je m'étais fait un chum en Tunisie, évidemment. Là, je reste pas là pendant des années, t'as peut-être 17 ans. Puis j'ai été à voir dans les familles et tout ça. Puis on mange beaucoup avec les mains, tu sais. Et je trouve que c'est le fun de manger avec nos mains. Je pense qu'on... Moi, j'aime ça, tu sais. J'aime ça me salir, tu sais. C'est le fun, tu sais. Non, mais c'est cool, tu sais, t'as mis les mains pleines, puis là, tu te liches les doigts, puis ça fait partie de la vie. Puis nous sommes tous les plus goûteux. Je trouve qu'on manque de ça ici.
On se le permet ici quand on mange des fruits de mer, là, parce que c'est comme permis, parce que c'est trop compliqué de manger avec une fourchette et un couteau, là. Tu sais, que ce soit des crevettes, du homard et tout ça, mais effectivement, ça a un côté vraiment, vraiment plaisant à cette texture quand tu touches avec tes doigts. Je suis d'accord.
C'est le contact de ta bouche avec tes doigts. Pas mieux qu'une fourchette frite, tu sais.
Oui, non, je suis d'accord. Non, d'accord, on se fera un souper, ma jolie, puis ça sera la base.
OK, d'ailleurs, je ne parle pas d'une fondue chinoise où tu mets les doigts dans l'eau. Non, pas
ça. Non.
Mais c'est juste de remanger après. Mais là, on va manger des hamburgers avec nos mains. On mange avec nos mains, là. Tu sais, la première affaire qu'on fait, qu'on goûte, c'est les enfants, c'est avec nos doigts, tu sais. Mmh. La culture, elle aurait avantage, en tout cas, pour certains repas.
Ça peut être pas dans
un spaghette pas mal avec les doigts, ça risque d'être... Mais ils ont le poignet, hein, ils roulent ça, là, ping, 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 ping. Là, t'es comme, mon Dieu, ils font des petites boules. Puis
ils sont capables. Sont habitués.
Je pensais pas te parler de ça, en tout cas.
Moi, j'ai toujours des questions surprenantes. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu qui t'a le plus marqué?
Je pense que c'est les enfants démunis. Ça m'a plusieurs pays que j'ai fait où est-ce que les enfants, tu sais, on regarde ça souvent à télé, puis wow. Mais quand je suis allée à Chypre avec l'armée canadienne, on a été amené à visiter différents endroits, tu sais, puis t'arrives dans différentes places où ce que t'as des enfants qui ont subi la guerre, pas de bras, l'autre pas de jambes, et ça existe. Puis là, toi, t'es là à démunis là-dedans parce que, tu sais, franchement, on vit pas ça ici tant que ça, là, tu sais. Ça m'a beaucoup touchée. Puis quand je suis allée en République dominicaine pour un voyage tout inclus, je me suis amie avec Mélissa, qu'elle s'appelait. C'était une dame qui faisait des massages et tout ça. Et elle me racontait que sa fille n'avait jamais vu la mer. Parce que là-bas, ils ont une place où est-ce que... C'est pas comme au Mexique. Tu sais, au Mexique, t'as des endroits, des plages publiques où ce que le monde peut y aller, les citoyens peuvent y aller. Là-bas, où ce que moi j'étais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça m'avait tellement frappée de me dire que cette petite fille-là n'avait jamais vu la mer de sa vie. Elle avait 10 ans, puis elle habitait là. Alors, j'ai décidé de payer à l'hôtel, c'était 2000, je ne sais pas, 2000 pesos, je ne sais pas si c'est des pesos, ou whatever, je me rappelle plus, pour qu'elle passe la journée avec moi à l'hôtel. Alors, sa mère l'a amenée, j'ai payé son entrée. J'ai des frissons déjà de dire ça parce que, tu sais, c'est des enfants qui ont une reconnaissance. Elle s'appelait Frangelica, la petite fille. Et puis, elle a passé la journée avec moi, elle est rentrée à l'hôtel, elle avait jamais vu sa mère travailler noir, elle avait jamais vu non plus une piscine, elle avait jamais vu la mer. Et là, je la vois qui court, coûte, puis les pieds dans l'eau, puis et là, tout énervée, elle capote bien dur, puis là, la piscine, puis écoute, elle a passé sa journée dans la piscine, et là, elle avait le droit de manger n'importe quoi. Dis-moi ce qu'elle a mangé pendant toute la journée. dites, les amis!
Des frites, pas des frites, non.
J'ai mangé des hot dogs.
Des hot dogs!
Elle a dû manger 22 hot dogs. Je veux dire, elle arrêtait pas les hot dogs. Puis là, je disais, tu peux manger d'autres choses? Non, hot dog. Puis elle parlait pas du tout français ni anglais. Elle parlait espagnol. Puis j'essayais de comprendre. On se comprenait pas, mais c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, j'ai compris que le hot dog, ça aimait ça. Puis c'était un moment. Puis je l'ai gardé longtemps. Je l'ai parrainé, ou marrainé, si tu veux, longtemps. On était en contact pendant des années de temps où est-ce que j'envoyais un peu de sous à sa mère. Puis là, ils m'ont amené, en fait, chose qu'on n'a pas le droit de faire là-bas, là. Mais moi, j'aime pas ça, les affaires qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, je fais tout ce qu'on n'a pas le droit. Puis, je sais pas, il y a comme des enfants de même qui me dérangent. Moi, je me veux ça, je le fais, tu sais.
Ouais, ouais.
Et que là, je passe en mobylette avec elle, en scooter, en fait. On n'a pas le droit de faire ça. On s'est sauvés, je suis souvent en scooter, puis je me suis en allée chez elle.
Oh.
Dans sa ville. C'était à peu près une heure de scooter, là. On s'entend que c'était pas à la porte, là.
Okay.
Puis là, elle m'a amené chez elle. Elle, pour elle, c'était super important qu'elle m'invite chez elle, comme j'avais invité sa fille à l'hôtel. Ouais. Puis j'ai vu son mari, tu sais, son mari qui avait pas de jambes. Là, j'ai fait dans un petit appartement. Écoute, la petite, quand elle est rentrée dans ma chambre d'hôtel, là, ben, je te jure, la chambre, c'était sa maison.
Ouais.
La chambre, c'est la grandeur de sa maison. Alors, elle, là, était comme... Écoute, elle sautait dans le lit, elle se couchait dans le lit. Elle était vraiment comme, my God, this is life, là, tu sais. Elle était vraiment... Là, elle regardait la toilette, elle flushait. Écoute, je te dis, j'avais l'impression que je vivais dans un autre monde, mais tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. C'était les années 2006-2007, là. Mais elle était, écoute, à la toilette, par piser sa bouton de la toilette, par regarder l'eau couler, puis regarder l'eau couler. Mais quand je suis arrivée chez ça, j'ai compris que l'eau coulait pas de même chez elle.
Oui, non, c'est ça. Non, c'est un autre univers.
Pas tout le même univers. Puis ça m'a... On est allé à l'église ensemble. On est allé prier. Elle m'a acheté une petite bague. Il y avait, tu sais, une petite bague que j'ai encore, d'ailleurs. Une petite bague avec une petite Marie, Sainte-Marie dessus, là. Genre, que t'avais à... Mais tu sais, c'est des affaires que... C'est des affaires que tu reviens chez vous, puis ça change ta vie, là. Tu sais, ça t'amène à un autre endroit dans ta vie que tu te dis... c'est ça que... Ça m'a beaucoup... touchée, je pense, surprise, touchée de voir les enfants dans différents sacs. J'ai passé d'une affaire à l'autre, mais ça m'a pas poussé.
Non, mais ça moi, je dis tout le temps, ça te remet le cœur à la bonne place.
Ouais. Ouais. Ça, il était déjà à bonne place, je pense. C'est juste que ça vient de chercher Mais tu sais, on peut pas tout donner. C'est ça qui est un peu difficile là-bas. Quand on y va, tu sais, tu veux donner un peu, mais tu peux pas tout donner, ces enfants-là. Puis là, il y a des gens qui me disaient, oui, mais c'est pas bon que vous leur donniez quelque chose parce qu'après ça, ils s'attendent à avoir d'autres choses. Puis là, ils sont déçus parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. Et hey, ça finit plus. Non, mais ça finit plus de finir. T'es comme, OK, ça va être correct, là, tu sais, que là, finalement, faut pas rien donner, mais faut donner, tu sais, mais...
Ouais, ouais, non, non, mais c'est ça. Mais tu dis que tu l'as parrainé pendant plusieurs années. Ouais. Est-ce que tu sais comment elle a grandi, cet enfant-là?
On a perdu contact, mais je sais que la dernière fois qu'on a parlé ensemble, parce que là, écoute, elle m'avait même envoyé un livre. Écoute, avant que je parte, elle m'avait amené un livre d'espagnol pour enfants, pour que j'apprenne à parler espagnol. Mais on s'écrivait, puis c'est sa mère traduisait, puis elle m'envoyait les lettres. Oh. Puis les dernières informations que j'ai eues, elle était à l'école. Elle étudiait, elle avait fait ses études pour rentrer à l'école. Là. Okay. Donc, le niveau de scolaire, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas.
Ouais.
Je pense que c'est le fait que je suis déménagée, j'ai changé de place, puis à un moment donné, je pense que nos courriels, il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là, mais nos adresses ne se sont n'ont pas suivies. Mais j'ai souvent des pensées pour elle constamment. Puis là, en t'en parlant, là, je sens qu'elle est correcte quelque part. Là, je sens
t'as sûrement dû changer sa vie aussi parce que tu as ouvert une opportunité de quelque chose que là, elle dit, elle a un objectif peut-être à dire, ben je veux plus de ça dans ma vie aussi. Donc, tu sais, d'ouvrir ces portes-là, ne serait-ce que pour les autres, que pour soi ou de, tu sais, moi, je dis tout le temps, tout est possible, mais si tu sais pas que c'est possible, c'est difficile. Tu sais, quand tu sais que ça existe, ben ça devient beaucoup plus possible.
Oui, ça devient plus facile quand on le sait, tu sais. Tout à fait. Le possible existe dans l'impossible, mais quand tu commences à voir que c'est facile après que tu saches que le possible existe.
Exact. Mais dis-moi, ma jolie, là, écoute, tu nous en as parlé un peu de tout, un peu de ce que tu fais, mais aujourd'hui, ton travail consiste en quoi? Parce que je sais que tu accompagnes quand même au niveau du leadership féminin, mais tu n'as pas juste ça comme chapeau. Parle-nous de ce que tu fais.
Ben, je te dirais que principalement, j'ai retrouvé mes grands amours, qui est la production vidéo. Je fais ça depuis longtemps. J'avais arrêté dû à un cancer assez agressif en 2020. Puis après, ça a eu la pandémie. Mais comme je disais, j'ai réouvert mon marché avec le marketing de soi. Marketing de soi, c'est vraiment comment apprendre ça à se vendre sans se vendre. Donc, basé sur notre authenticité, basé sur qui nous sommes dans notre savoir-être. Puis, quand je suis revenue de tourner en 2018, justement, après le documentaire, je suis allée en tournée pour mon premier livre qui est précis ici, j'ai besoin d'être aimée. J'étais allée faire une tournée en France avec tout ce projet-là, le documentaire puis le livre. Puis, tu sais, c'est correct quand t'es dedans, mais quand ça fait 5 ans que t'es dedans, puis tu te présentes tes affaires, puis tu vois du monde qui sont en phase terminale constamment, parce que je donnais beaucoup de conférences en oncologie. Je suis revenue de là, puis je me suis dit, là, faut que tu changes, faut que tu retournes à tes amours. Moi, je fais du marketing dans la vie, j'ai tout le temps fait ça ma vie, puis je coach professionnel en PNL, puis je me suis dit, j'ai envie de donner ce qui fait de moi le succès que j'ai. T'sais, marketing de soi, c'est la force. J'ai gagné des prix que je sais même pas pourquoi. Il m'est arrivé plein d'affaires, je sais pas pourquoi. Puis au bout de ligne, quand je commence à regarder ça, c'est pas tant savoir-faire, mais c'est plus mon savoir-être que fait que je me suis rendue où je me suis rendue dans mes succès. Alors, j'ai parti le programme de marketing de soi. J'ai écrit un livre. Mon éditeur m'a dit, j'aimerais ça que tu me fasses un livre. J'avais fait de la conférence déjà. Puis là, j'ai écrit le livre. Puis en 2020, février 2020, c'est ça, la pandémie est arrivée. Puis, j'ai été déclarée avec un cancer agressif, très, très agressif. J'ai dû être opérée d'urgence, puis je suis rentrée en février. Ils m'ont opéré. J'ai fini les corrections du fameux livre-là, ça, morphine, c'était super le fun. Si vous lisez le livre, il y a des choses bizarres. Ce n'est pas de ma faute. C'était parce que j'étais comme quelque peu gelée. Un petit peu. Mais je voulais absolument le sortir. Tu sais, moi, je vis comme si c'était toujours ma dernière journée de ma vie. Tu sais.
Ouais.
J'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire parce que si je ne le fais pas, je ne sais pas si je vais être encore là demain. Tu sais.
Mm-hmm.
Je sais que c'est peut-être obsessif, mais après... trois expériences, tu dis, ben. Alors, j'ai réussi à faire le fameux livre, fini les corrections, et la pandémie est arrivée, et le livre est resté dans des boîtes chez les libraires, et il est sorti beaucoup plus tard. Mais, malgré tout ça, ça ne m'a pas empêché de commencer mes programmes de marketing de soi. Et j'ai été invitée dans différents endroits, dans les formations, dans des centres de formation, exemple en home staging, ben, j'étais allée leur donner des cours de marketing de soi. Donc, j'ai commencé à ouvrir mon marché vraiment comme ceux qui ont des centres de formation, qui ont envie que leur monde apprenne à vendre leurs services et qui sont après qu'ils aient tout fait leur formation. Parce que le problème, c'est tu peux avoir bien des diplômes sur les murs, mais ça ne veut pas dire que tu vas être capable de te vendre, de faire tes offres de service, de connaître ta vraie valeur marchande, puis être capable de se dire voici ce que je vaux, voici où ce que j'en suis. Et ça a fait boule de neige. J'ai fait beaucoup de webinaires, ramassé beaucoup de gens. Les gens sont venus, ils ont fait des programmes d'excellence. Puis c'est ça, que j'accompagne les gens en programme d'excellence après coup, à travers le marketing de soi, mais aussi au niveau tout ce qui est au niveau blog, parce que je fais des sites internet par la bande. Je pense que l'ouverture que j'ai, moi, je m'appelle le multitask. Tu sais, je suis vraiment clé en main. Donc, quand j'ai des clients qui viennent à moi pour différents projets, ils sont obligés de sortir ailleurs. Ils ont vraiment le clé en main. Puis c'est ça, que je fais de la vidéo aussi professionnelle. Donc, les compagnies qui veulent... pas juste les compagnies, là, j'ai des auteurs, j'ai différentes entreprises qui veulent, dépendamment de ce qu'ils ont envie de mettre en branle, ben, je vais faire l'analyse du marché avec eux, je vais regarder les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils offrent, comment eux veulent se démarquer aussi également. Encore là, la compétition, c'est des bons amis pour moi. T'sais, c'est des gens, je vois qu'est-ce qui se fait, puis c'est jamais d'essayer de faire du plagiat, mais c'est beaucoup plus d'apprendre qu'est-ce que t'aimes de quelque chose puis d'être capable de le mettre à ta sauce, tu sais.
Exact.
Donc, je vais voir avec eux, puis là, je leur crée un storyboard, je leur fais toute la mise en place de l'idée de la vidéo qu'ils vont avoir. Après ça, je m'occupe des tournages, on fait le tournage, je fais tous les montages, puis tout ce qui est audio aussi. Puis, que je fais pas mal de ça, puis pas mal d'accompagnement entrepreneurial, pas tant le démarrage d'entreprise, mais vraiment plus comme quelqu'un qui veut apprendre à se démarquer dans qui il est, comment vendre son service. Alors, j'ai toutes sortes de monde. J'ai des avocats, j'ai des médecins spécialisés, j'ai des gens en home staging, j'ai des courtiers immobiliers, j'ai différentes personnes, j'ai des auteurs. C'est pas limité à un style d'entrepreneur. C'est vraiment par rapport à comment tu veux monétiser tes acquis, puis comment apprendre à te vendre sans vendre, pour être capable de vivre de ton métier. Tu sais, je dis, moi, depuis toute ma vie, je n'ai jamais fait autre chose que de travailler dans le domaine artistique. Aujourd'hui, je regarde ma vie, je suis libre financièrement, j'ai des acquis en immobilier, toujours en étant en milieu artistique. Ben, il y a quelque chose que j'ai fait que beaucoup de gens ne savent pas faire en partant. Donc, c'est un peu ça que j'amène. Puis la maladie, ben, ça là, c'est belle. Force, en fait, ça a des belles forces, en fait, parce que ça t'amène à focusser sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Puis de laisser tomber tout ce qui est toxique, puis toutes les choses qui sont inutiles, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis dernièrement, ben j'ai eu mon podcast, c'est comme ça qu'on s'est connus. Il roule très bien sur le marketing de soi, il est sur Spotify, puis toutes les plateformes de diffusion. Puis ça roule bien, c'est le fun, j'aime bien ça.
Ton podcast, c'est quoi son titre sur le marketing de soi?
Le marketing de soi. C'est vraiment « Ose être ton meilleur levier financier ». En fait, c'est le même titre que le livre, mon livre, « Le marketing de soi, osez être votre meilleur levier financier grâce à votre authenticité ». J'en parle beaucoup dans mon podcast parce qu'en fait, je pense que c'est un guide en cette étape que tout le monde devrait avoir. Tout le monde étant, je généralise, même si je suis pianiste, je généralise, tout le monde devrait avoir mon livre.
Écoute, tu nous enverras le lien où est-ce qu'on peut se le procurer. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode avec un grand plaisir. Mais sinon, ma jolie, c'est où l'endroit qu'on peut te retrouver le plus facilement?
Ben, je suis pas mal, je te dirais, sur ma jolie Dion. Je veux dire, mon site internet est là, le podcast est là. Sur Facebook, mon mur est public. Donc, il y a ma jolie Dion qui est plus ma page professionnelle, mais j'aime mieux ma page personnelle. Cependant, les gens maintenant peuvent suivre. Tu sais, à l'époque, on avait juste des amis, puis il fallait que les gens soient des amis. Moi, je prends plus d'amis. Donc, par contre, tu peux suivre ma page, puis je vais être là. Mais pour me retrouver plus facilement, il va avoir... je vais accompagner de production, Zumbuzz Production, mais Majolidion, les gens peuvent me retrouver là-dessus. La plupart du temps, mon point com, majolidion.com. Puis sinon, c'est ça. C'est ça.
Écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très apprécié. J'ai adoré notre moment ensemble. Je suis sûre que les auditeurs vont adorer aussi. Je les remercie d'avoir été jusqu'à la fin. Donc, on les invite à aller acheter ton livre, évidemment. Oui! Puis moi, ben, je vais être la première, puis j'aimerais l'avoir dédicacé. Si vous
ben, j'aimerais ça aussi. J'aimerais ça te dédicacer. Alors, de toute façon, on est dû pour se faire une fondue avec nos doigts.
Absolument.
Donc,
à la limite, t'amener un livre, puis on pourrait commencer à regarder une planification de voyage. Donc, il y a des auditeurs qui vont encore prendre de s'en venir. Peut-être qu'on va avoir quelque chose ensemble en train de se planifier quelque chose, là. Tout un voyage d'immersion, là. Tenté, là. Ça bouge dans mon esprit, là. Bien accompagné, ça fait la grosse différence, tu sais, parce que, regarde, ma première réaction, quand je t'ai dit, oh, non, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Ben, tu sais, toi, tu fais exactement ce que moi, je fais avec mes entrepreneurs. Je m'en occupe au complet. De exactement. A à Z. Ils ont juste à être qui ils sont dans leur extraordinarité et de dire, tu sais, j'ai tel talent, puis moi, ma job, c'est de les pousser, de les propulser vers leur succès.
Exactement.
Toi, tu fais la même affaire avec le voyage.
Ouais. Ça fait.
Que moi, j'ai juste à être extraordinaire comme je suis. Puis toi, ben, tu vas m'aider à me propulser.
Écoute, quel team! Quel team de feu! Donc, hein, restez sur les réseaux sociaux parce que peut-être qu'on va vous annoncer ça dans pas
longtemps. On s'en
On lance ça dans l'univers.
Oh, yeah. Donc,
c'est ça. De toute façon, tu l'as déjà vu, la grande villa, c'est à mon tour de la trouver. Merci tout le monde. Merci,
Nathalie. Ciao.
Un plaisir. À bientôt.
Salut. Au revoir.